Vous écoutez France Culture.
Le 10 juin 2014, la ville de Mossoul tombait entre les mains de l'État islamique. C'est une information que l'on a entendue à maintes reprises et dont on a parlé ici même et qui a fait les titres des journaux. Mais ce dont on a moins parlé, c'est du sort de ce que l'on appelle les chrétiens d'Orient. À l'instar des autres minorités religieuses de la région, ils sont persécutés, assassinés et contraints très massivement à l'exil. Mais le terme de chrétiens d'Orient est loin d'être uniforme. Il englobe des réalités complexes, multiples. Alors qui sont-ils? Où en est la situation de ces chrétiens persécutés à travers le Moyen et le Proche-Orient? Pourquoi accuse-t-on l'Occident de faire la sourde oreille? Y a-t-il un destin commun aux minorités religieuses dans ces régions? Et comment leur disparition s'inscrit-elle dans le monde, dans le nouveau monde voulu par l'État islamique? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons ce matin un habitué non seulement de ces territoires-là, mais aussi de la Maison Ronde, Sébastien de Courtois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur un dimanche sur deux de Chrétiens d'Orient à 8h et vous venez de faire paraître chez Stock un ouvrage intitulé « Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions, le crépuscule des chrétiens d'Orient ». Vous serez rejoint en deuxième partie par un de vos très bons lecteurs et vous l'avez même remercié dans le livre pour, je crois, parer parfois éventuellement quoi, quelques erreurs qu'il y aurait, parce qu'il sait tout, il connaît tout, absolument tout sur cette question-là. Le plus érudit peut-être d'entre nous tous, sûrement, Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez publié, vous, Les hommes en trop, Malédiction des chrétiens d'Orient, chez Fayard. Et je rappelle, entre autres, que vous êtes directeur des éditions du CERF. On vous écoutera davantage en deuxième partie, comme ça vous rectifierez toutes les approximations, éventuellement.
Non, mais je suis pas un censeur, je suis d'abord un admirateur du sens du voyage de Sébastien de Courtois, de
oui,
ce qu'il nous ramène.
Et bien sûr, je vous taquine. Sébastien de Courtois, peut-être pour reprendre la question qui nous occupe aujourd'hui avec l'actualité la plus immédiate, mais je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à parler de toutes ces questions aussi graves, tout en tentant non pas de la faire sur un mode journalistique traditionnel, mais par la balade que vous évoquez dans votre livre?
C'est difficile à dire, c'est ce que j'ai voulu faire en commençant cet ouvrage qui est né dans la fournaise du mois d'août dernier, du mois d'août 2014. Pour rappeler à nos auditeurs, vous avez mentionné la chute de la ville de Mossoul au mois de juin, et bien deux mois après, c'était assez prévisible je dois dire, au tout début du mois d'août, la chute de la ville de Karakoche, qui était ce bastion symbolique de la présence chrétienne sémite, ce vieux berceau de civilisation araméenne liée à la Mésopotamie qui tombe. Voilà. Donc j'arrive en Turquie deux jours après la chute de Karakoche, et j'assiste avec un photographe qui est venu
Noël.
Avec moi, voilà, Noël Kidu.
Ce qui tombe bien pour faire un reportage sur les chrétiens d'Orient, vraiment.
Je tiens à le mentionner, envoyé par le Figaro Magazine sur place, voilà, pour assister à ce désastre qui était avant tout un désastre humain, un désastre émotionnel. Donc très très vite, la balade s'est transformée finalement en chemin de croix, sans mauvais jeu de mots bien entendu, par rapport à ce que nous voyons tout simplement. Voilà.
Nous évoquerons votre livre plus avant, et notamment avec la chronique de Brice Couturier tout à l'heure, pour parler de l'actualité la plus immédiate, Sébastien de Courtois. Depuis le 10 juin, cela fait un an que l'exil des chrétiens de Mossoul a commencé. Que savez-vous de la situation aujourd'hui et comment est-ce qu'elle a évolué au long de cette année?
Alors c'est un désastre parce que il n'y a aucune perspective de retour surtout. C'est en ce sens que la situation à mon avis est gravissime, parce que les gens s'installent finalement dans l'idée de l'exil. Et c'est peut-être ça le plus difficile à accepter, à commencer par ces...
Départ sans retour. Fuite sans retour.
Bah, Karakoche est toujours occupée par les forces de Daesh. Il y a aucune, et on parle d'une bataille de Mossoul éventuellement, mais ça va être un sacré morceau. Donc tous ces villages qui sont ces villages de la plaine de Ninive, ce vieux terroir, sont en très très grande majorité occupés par ces forces de l'islam radical. Les églises sont détruites, les bibliothèques sont pillées. Les maisons sont vidées de leur contenu, les voitures sont volées. Enfin, je veux dire, il faut se mettre à la place de ces gens, tout simplement, qui perdent, outre le fait qu'ils soient d'une minorité religieuse, qu'ils soient chrétiens, bien entendu. Je pense aussi aux Yézidis qui ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu en route. Ces gens-là perdent tout. Donc moi, ce que j'ai vu avec d'autres...
Les Yézidis qui défendent beaucoup les chrétiens d'Orient.
C'est plutôt le contraire maintenant.
Ah, maintenant c'est le contraire. D'accord. Pardon.
Voilà.
J'en suis moi votre livre sur ce coup-là. Mais
ce qui me permet de faire un lien avec avec l'histoire, c'est qu'en 1915, donc cette année génocidaire, beaucoup d'yézidis ont sauvé des chrétiens. Ouais. Et les prélats que j'ai rencontrés dans le nord de l'Irak cet été m'ont dit cette fois-ci...
Il faut qu'on s'en souvienne, c'est à nous.
C'est à nous de les sauver, ouais, voilà. Ouais. Donc dans la mesure de leurs moyens, évidemment, parce qu'il n'y a aucune armée, je veux dire, il n'y a aucune présence qui permet, outre le témoignage, si vous voulez, de... Donc ce sont des gens qui s'installent dans l'exil, me semble-t-il, à Erbil, dans des camps de réfugiés dans le nord de l'Irak, donc la partie kurde de ce pays. Le Kurdistan, je veux dire, se défend admirablement bien. Ils accueillent tous ces gens. Ils ont déjà assimilé toutes les vagues de réfugiés précédentes qui sont les Irakiens du Sud, les Syriens, des Kurdes aussi de Syrie qui ont été obligés de partir. Et là, cet été, ils ont accueilli 150 000 à 200 000 réfugiés, dont une très très grosse moitié de chrétiens.
Je vous propose d'écouter l'extrait d'un long reportage que Sonia Kronlund a diffusé au mois d'avril dernier dans Les Pieds sur Terre, bien sûr sur France Culture, témoignage de Domar, 29 ans, chrétien, né à Mossoul en Irak, où sa famille était installée depuis 4 siècles. Omar a dû se réfugier d'abord à Erbil, au Kurdistan turc, et puis en France depuis le 1er octobre dernier. Au micro de Valérie Borst, Omar a raconté la nuit où, sous la menace, il a dû quitter Mossoul, où sa famille vivait, je le rappelle, depuis 4 siècles.
C'était en 2007, un jeudi soir, la téléphone sonne. Et là, elle me dit, vous êtes telle famille, telle maison. Oui. Je m'appelle Abu Abdullah. Je suis le leader d'un groupe djihadiste. Et le groupe, on a 30 soldats qui sont blessés. Il faut 3000 dollars pour transférer chacun en Syrie pour le faire soigner. Donc vous devez me dire combien de l'argent avez-vous pour payer. Moi, j'ai fait le calcul. 30 multiplié par 3000, ça fait 90 000 dollars. Moi, j'aime bien faire quelque chose, mais vraiment, on est 4 orphelins. On vient juste de perdre notre mère et on n'a pas assez d'argent. C'est... Et lui, il a dit, écoutez-moi, on connaît très bien que vous êtes une famille chrétienne. On connaît que vous n'avez pas de milice, la personne qui va vous protéger. Nous, quand vous payez, vous serez protégé par notre groupe. Et si vous ne payez pas, il a arrêté de parler. J'ai appelé mon père. Papa, on a reçu la menace. Et lui, il était calme. Il m'a dit, calme-toi. Ok, prépare tes affaires. Tu quittes demain matin.
Et fin septembre, Omar a finalement pu se réfugier en France avec sa famille.
Un de mes amis français, il m'a contacté pour dire, Omar, je vois dans la presse que M. Laurent Fabius, il a annoncé que la France est prête pour accueillir les chrétiens et les minorités irakiennes. Si vous avez besoin d'une famille garante, on le sera avec un grand plaisir. J'étais tellement heureux que vraiment que j'ai commencé à pleurer. On a acheté les billets. J'ai contacté le consulat pour leur dire qu'on a une famille garante. Et dans un délai de moins de 24 heures, on était en France. Je suis arrivé à Charles de Gaulle avec ma famille. J'ai commencé à respirer. Et c'était aussi un sentiment très étrange parce que je savais qu'on doit vraiment laisser toute notre histoire derrière nous.
Voilà, Omar, un extrait des Pieds sur Terre de Sonia Kronlund, témoignage, j'imagine que vous connaissez ou vous devez reconnaître pour en avoir recueilli de très nombreux semblables. Sébastien de Courtois.
Ce qu'il faut remarquer tout de même, c'est qu'il s'exprime dans notre langue. C'est-à-dire, on ne peut pas oublier le fait qu'il y a des gens qui sont francophones. Ça crée des liens tout de même. Il y a peu de pays qui peuvent s'enorgueillir d'avoir des populations là-bas qui s'expriment dans leur langue. Deuxième point, il a parlé des chrétiens et des minorités. Et c'est un point qui me semble très important. C'est ce que disent aussi les autorités religieuses chrétiennes, je pense au patriarche de Babylone, Louis Sacco, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et les chrétiens, d'une manière beaucoup plus générale, portent aussi, sinon surtout, la voix des autres. c'est-à-dire de cette mosaïque orientale qui est en train de disparaître à vitesse grand V.
Un nouveau monde, hein, dites-vous, voulu entre autres par ceux qui se autoproclament l'État islamique.
Un nouveau monde avec certainement un peu de cynisme, bien entendu, parce qu'il faut, il faut tenir.
De nouvelles frontières.
Il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe au-delà de la simple observation. Et voilà, il l'a dit très bien, c'est un déchirement de devoir partir.
Alors on voit qu'il y a quelques associations, organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'accueil de ces chrétiens d'Orient, mais au fond on sent que dans votre livre vous êtes assez agacé, et comment ne pas l'être, par l'idée quand même que visiblement cette question-là des chrétiens d'Orient, du fait qu'ils soient pourchassés, massacrés, rejetés, eh bien en fait on s'en fout un peu ici quoi, hein.
On s'en fout, oui et non. Il faut savoir aussi, encore une fois, que la France est encore un pays qui en parle beaucoup. Simplement, ça fait longtemps que l'affaire est quand même connue. On ne va pas remonter tellement loin dans l'histoire. Néanmoins, cette problématique des minorités chrétiennes dans ces bouleversements politiques du Proche et du Moyen-Orient, c'est pas nouveau. Simplement, ce qui a été absolument effarant à mon avis, c'est l'aveuglement de beaucoup d'intellectuels, de beaucoup de gens dans les médias peut-être aussi, qui en ont vu qu'un sujet confessionnel, alors qu'il ne s'agit pas d'un sujet confessionnel, il s'agit d'un sujet humanitaire et de civilisation. Ces gens-là sont porteurs en eux-mêmes d'une longue histoire qui concerne tout le monde oriental. Ce sont des traducteurs, ce sont des interprètes, ce sont des gens qui s'engagent en politique, ce sont des gens qui participent au développement et au rayonnement, qui ont participé, malheureusement on peut le mettre au passé dans certains pays, au rayonnement international de leur pays, avec les autres communautés. Et c'est cette voix qui va se taire, c'est ce fleuve qui va se tarir et qui portait aussi au-delà de chacun de ces pays. Je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, évidemment. On pourra parler peut-être un peu de la Syrie tout à l'heure, évidemment. Regardez le Liban.
Vous dites que même au Liban, je vous cite page 47, même au Liban où ils furent autrefois admirés et craints à la fois, les maronites quittent le pays de manière insidieuse.
Oui, parce qu'il y a pas de, il y a pas de, comment vous, là, il y a beaucoup de gens qui restent, attention, hein. Il y a beaucoup de gens qui restent, qui se bagarrent intellectuellement, qui tiennent à conserver cette présence, effectivement, dans cet Orient mosaïque. Il faut jamais oublier cette notion, de cohabitation, de vivre ensemble. Alors, c'est un terme qui, de vivre à côté, disons, voilà, à côté les uns des autres, dans un équilibre qui a été, plus ou moins imposé par l'histoire. Et n'oublions pas que les minorités, prennent la place qu'on leur donne. Bon, et ça, c'est des siècles de travail. Et là, tout s'effondre en même temps.
Mais et cette place de ce côté-ci, elle est assez quand même en portion congrue. Alors vous avez raison de rappeler qu'il y a pourtant des sensibilisations et des campagnes régulièrement pour faire connaître cette situation-là et qui sait comment y remédier. Il faut rappeler notamment qu'en 2005, Régis Debray avait remis un rapport d'études auprès notamment de l'Union européenne qui avait au fond parlé de cette question des chrétiens d'Orient. Bon, il s'est quand même rien passé.
Il s'est rien passé parce que les gens pensaient que c'était un sujet confessionnel. Et l'éternel culpabilité, pourquoi on s'intéresse à telle communauté et pas à telle autre. Mais ce que je voudrais dire, c'est pas parce qu'on s'intéresse aux chrétiens qu'on s'intéresse pas aux autres.
Oui, c'est ce que vous dites vous dans votre livre, hein, vous intéressez aux autres minorités.
Mais bien au contraire, c'est là justement l'intérêt de la chose. C'est de s'intéresser à ce qu'ils représentent. Mais ce sont des gens aussi, ce sont des familles, ce sont des gens comme nous qui ont des idées politiques différentes, qui sont divisés, qui n'ont pas forcément une vision communautariste à défendre. Ce sont des gens qui veulent tout simplement rester vivre chez eux.
Ou pas uniquement confessionnels.
Et pas uniquement confessionnels, surtout même parfois anti-confessionnels. Et là, je repense aux intellectuels libanais, par exemple, ou syriens qui ont participé à tous les mouvements du nationalisme arabe. Ils ont fait, eux, ont cru véritablement à la citoyenneté.
Alors, je voulais commence comme ça l'émission par cette balade que vous décrivez, qui vous a amené sur ces territoires-là, Sébastien de Courtois, partant même au fond de loin, des souvenirs de Patmos ou de la rue du Thor à Toulouse. Mais pour peut-être poser la question, tiens, tout de go comme ça, Jean-François Colossimo, vous n'allez pas apprécier ce que je vais vous demander, parce que je vais vous demander en une minute là, pour qu'on soit quand même fixé, de me dire, bon sang de bois, ce qu'est un chrétien d'Orient, Jean-François Colossimo.
Les chrétiens d'Orient, ils montrent d'abord que le christianisme est une religion au départ orientale et pas occidentale. Elle se développe dans ce qui est aujourd'hui Israël, la Palestine. Elle s'étend en Égypte, elle part en Irak, en Syrie, dans la Turquie. Vous avez là l'arc de la Méditerranée, dans lequel les 50 premières années du christianisme vont être décisives.
Elles sont là, c'est
là. Les trois premiers siècles. Et en fait, c'est une communauté de peuples. L'évangile baptise ses peuples, baptise ses cultures. Et ces cultures, lorsque l'Empire va se convertir au christianisme, petit à petit, elles vont éclater, donner lieu à des églises qui vont avoir des aventures formidables, qui vont faire des missions en Asie dès le 7e siècle, en Afrique avec l'église d'Éthiopie, en Inde où il y a encore des chrétiens. Ces chrétiens d'Orient, ils vont être congelés par l'histoire avec l'arrivée de l'islam. Ils vont se réveiller au 19e siècle pour essayer de reconquérir leur indépendance. Ils auront participé à l'élaboration de la grande culture arabo-musulmane parce que les musulmans, l'islam va emprunter son art, son architecture, son fond littéraire à ces chrétientés-là. Et ils vont aussi participer aux grandes aventures nationales et aux grandes aventures progressistes, surtout de ce monde-là au XXe siècle. Ils vont essayer d'instaurer la démocratie, ils vont essayer d'instaurer la citoyenneté. Ils vont être battus par l'histoire, d'abord en raison du rapport Est-Ouest, aujourd'hui au rapport Nord-Sud, et ces médiateurs nés, ces hommes de l'entre-deux, qui n'arrêtent pas de faire le voyage entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et l'Islam, aujourd'hui ils sont de trop, parce qu'on est dans un monde qui veut la confrontation, et ils disparaissent petit à petit, mais leur drame, il date pas d'aujourd'hui, c'est pas Daesh, leur drame date depuis un siècle, avec, comme grand signal, le génocide des Arméniens d'Asie mineure.
Est-ce que Jean-François Colosimo, il ne paye pas parfois le fait d'être assimilé aujourd'hui à des anciennes dictatures que nous avons pourtant aimées, mais que nous n'aimons plus? Je pense par exemple à la Syrie, et avec ce que d'aucuns dénoncent comme une fausse image, hein, qui plus est. Mais enfin, voilà, les chrétiens de Syrie ou d'Irak, on dit, après tout, ils ont été protégés par des dictatures qui étaient sanglantes, et bon, il y a un retour de bâton.
Famille alaouite, c'était des minoritaires, les Al-Assad, n'est-ce pas? Donc ils ont mis les minorités en avant. Mais voyez, regardez à côté l'Égypte, Moubarak, les Coptes, hein. Un Égyptien sur 10 est chrétien. Ben, eh bien, il souffrait sans être mis en valeur. Donc, il y a un sort plus général. Il faut pas s'arrêter sur un temps T, sur une situation. Le véritable problème, c'est que l'Occident a sa part là-dedans. L'Occident, ayant toujours considéré les chrétiens d'Orient comme des supplétifs, en a fait aux yeux des musulmans des collabos. Et à partir de là, en fait, c'est ça leur véritable problème. Ils ont été désignés. Pourquoi? Parce qu'ils sont les vecteurs de la sécularisation, du progressisme. Parce que minoritaires, ils veulent apporter la démocratie. Parce que aussi, parce que chrétiens, ils veulent l'égalité homme-femme, ils veulent la dissociation du religieux et du politique. Pour toutes ces raisons, il faut le dire, il faut bien le comprendre, sans faire de mauvais transferts, les chrétiens d'Orient ont pris, à partir des années 1980, par rapport à l'opinion arabe, la place que les juifs avaient en Europe au 19e siècle, c'est-à-dire des indésirables qui vont être très vite assimilés à des gens étrangers qui, parce qu'ils portent des valeurs d'émancipation, sont considérés comme des traîtres.
D'un mot, Sébastien de Courtois, vous dites, et nous y reviendrons dans un instant, mais vous dites que notre époque aurait les moyens de protéger ces populations.
Oui, parce que finalement, il s'agit de pas beaucoup de monde quand on y pense, quand on réfléchit bien.
C'est-à-dire, on peut donner un chiffre ou c'est un peu aventureux?
Non, c'est très difficile. Ouais,
grosso modo, les chrétiens d'Orient, aujourd'hui.
Bah, c'est, écoutez, si on considère qu'il y a, avec les Coptes, on est à 20, 25 millions de personnes, si on part d'Istanbul et d'accord, on arrive jusqu'au d'accord. Caire.
Voilà, ça concerne quand même énormément de pays.
Bon, nous revenons sur toutes ces questions, bien sûr, avec vous, Sébastien de Courtois, Jean-François Colosimo. Je rappelle, Sébastien de Courtois, sur les fleuves de Babylone, nous pleurions chez Stock, et nous vous retrouvons à 8h15, deuxième partie avec Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc, bonjour à vos invités. Puisque personne ne veut les défendre et qu'ils sont trop faibles pour le faire eux-mêmes, qu'attendons-nous pour accueillir ces familles dont vous mettez en lumière l'extrême dignité qu'elles sont parvenues à conserver dans leur épreuve?
Voilà, nous vous retrouvons à 8h15 pour répondre à toutes ces questions. Vous écoutez France Culture, il est 8h.